Richmond, en Virginie. L'État américain de la Virginie qui tombe dans l'escarcelle républicaine, le New Jersey, qui pourrait connaître le même sort. De bien mauvais signaux pour Joe Biden, un an des élections, demi-mandat. Notre invité du jour, l'ancien député haïtien Jerry Tardieu, on évoque ensemble les crises multiformes qui paralysent le pays. Tout ça avant de vous retrouver, Benoît Ferrand, le journal de la première, début de la médiation en Martinique, aujourd'hui en principe, au sujet de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire.
Oui, en principe en tout cas, car rien ne dit que l'intersyndicale sera au rendez-vous de l'entrevue prévue ce matin avec les médiateurs désignés par le gouvernement.
On en parle dans 15 minutes, Benoît. Bienvenue à tous.
And I want to thank my beloved Commonwealth of Virginia.
Inconnu, il y a quelques mois encore, le voilà à la tête de la Virginie. Glenn Youngkin, candidat républicain, remporte l'élection de gouverneur qui se tenait hier dans cet état du sud-est américain.
We will change the trajectory of this Commonwealth.
Ensemble, nous allons changer la trajectoire de cette communauté, et ce, dès le premier jour, promet-il. Lui qui ravit donc la Virginie aux démocrates. Il devance de près de 3 points le candidat Terry McAuliffe. Et ça, Guillaume Nodin, c'est une énorme claque pour le président Biden.
Nous allons gagner. Juste avant de quitter Glasgow et la COP26, Joe Biden avait une fois de plus fait étalage de son traditionnel optimisme. Mais en atterrissant à Washington, la Virginie était perdue. Et pourtant, il y a tout juste un an, Joe Biden, lors de l'élection présidentielle, remportait l'État situé juste au sud de la capitale avec 10 points d'avance sur Donald Trump. Entre-temps, les démocrates n'ont pas été capables à ce jour de livrer les résultats que leurs promesses avaient laissé espérer. Les plans pour les infrastructures, pour les dépenses sociales et le climat sont toujours bloqués par les disputes entre démocrates au Congrès. Défaite stratégique pour les démocrates, donc, tout aussi ennuyeux, le président Biden est venu en personne s'impliquer dans cette campagne. C'est donc aussi une défaite personnelle pour lui. Enfin, au-delà de Joe Biden, les autres poids lourds démocrates, Barack Obama, Kamala Harris, entre autres, se sont engagés dans cette élection avec un angle d'attaque commun, assimiler le candidat républicain à l'ancien président Trump. Manifestement, cela n'est plus suffisant, et Donald Trump a beau jeu de remercier sa base électorale de s'être mobilisée. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et bonjour à vous, Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Une défaite démocrate, une victoire républicaine très commentée bien sûr dans la presse ce matin.
Oui, un petit séisme politique car cet État a été depuis 2013 entre les mains des démocrates, écrit le Washington Post. Le journal estime que la Virginie devient du coup un swing state, un État où on vote tantôt démocrate, tantôt républicain. Glenn Youngkin, que le journal considère déjà comme la nouvelle étoile montante du parti républicain, a réussi à rassembler aussi bien les électeurs modérés des banlieues que des partisans de Donald Trump dans les zones rurales.
Comment est-ce qu'on explique, Arim, cette défaite démocrate?
Selon Politico, leur stratégie qui consistait à miser sur la haine des électeurs envers Donald Trump n'a pas fonctionné. Peut-être parce que le rejet des démocrates est finalement plus fort que celui des conservateurs, pense le site d'information. Pour le New York Times, la victoire du candidat républicain illustre le fait que les électeurs sont avant tout préoccupés par les questions relevant de la vie quotidienne, comme les emplois ou la sortie de la pandémie. Et ils estiment visiblement que les réponses des démocrates à ces questions ne sont pas suffisantes. Ce qui s'est passé en Virginie, écrit Politico, montre clairement que les démocrates risquent d'être confrontés non seulement à une vague rouge, donc républicaine, en 2022, aux élections du mi-mandat, mais aussi à une éventuelle victoire de Donald Trump en 2024.
Et du coup, bien sûr, c'est la panique qui gagne le clan de Joe Biden.
Panique à bord, c'est le titre du New York Times ce matin, car il n'y a pas seulement la débâcle en Virginie. Hier, on votait aussi pour le poste du gouverneur dans le New Jersey, un autre État que l'actuel locataire de la Maison-Blanche a remporté facilement et qui pourrait tomber dans les mains des républicains. Pour l'instant, les résultats sont encore partiels, mais le candidat conservateur a une légère avance sur son rival démocrate. Le New York Times note aussi que hier, les habitants de Minneapolis ont rejeté l'idée d'une refonte de leur police, que réclamaient beaucoup de manifestants, mais aussi des démocrates, après le meurtre de George Floyd, tué par un officier il y a plus d'un an. Selon Politico, le parti de Joe Biden doit se poser une question difficile. Pourquoi n'arrive-t-il pas à battre les républicains qui, après tout, ont perdu l'élection présidentielle et restent dans une position de servilité à l'égard d'un président battu, exilé dans son club de luxe en Floride. La réponse, écrit Politico, se trouve peut-être dans ce sondage de la chaîne ABC, selon lequel les conservateurs sont considérés comme plus compétent pour résoudre des questions très variées comme la sécurité des frontières, la lutte contre l'inflation et la criminalité, l'économie et la sécurité nationale.
En tout cas, les démocrates doivent donc se remettre au travail et se réveiller. Hein.
Oui, surtout d'éviter les tensions internes, comme l'écrit le site d'information The Hill. Les démocrates, concluent le New York Times, feraient bien de commencer à réaliser les promesses de campagne de Joe Biden et cesser de se focaliser sur une stratégie anti-Trump. Le journal cite une militante afro-américaine expliquant que les électeurs noirs sont de plus en plus déçus par l'incapacité des démocrates à adopter des lois qui garantissent un égal accès au droit de vote et qui rendent aussi le système judiciaire aux États-Unis plus égalitaire.
La seule raison peut-être ce matin de se réjouir pour les démocrates, c'est New York, hein, puisque c'est bien Eric Adams, l'ex-policier démocrate, donc, qui remporte la mairie avec 67% des suffrages. Il est seulement le second maire afro-américain de l'histoire de la ville. Merci beaucoup, Harim. Il est 9h16 à New York, comme à Port-au-Prince.
Port-au-Prince 89.3 FM.
Et on continue à parler des États-Unis et de leur implication en Haïti avec notre invité à mes côtés en studio. Bonjour, Jerry Tardieu.
Bonjour, merci de l'invitation, c'est un plaisir.
Ancien député haïtien, coordinateur national du mouvement En Avant qui appelle à un sursaut national en Haïti pour, je cite, redresser la barque nationale. Joe Biden, je parle de lui, une lettre ouverte signée par une soixantaine de représentants de la société civile, lui a été adressée il y a quelques jours pour appeler à la fin de l'ingérence américaine et dénoncer la responsabilité de Washington dans la situation actuelle d'Haïti. Jerry Tardieu, vous n'avez pas signé cette lettre, je le précise, mais est-ce que vous partagez le constat et est-ce que vous soutenez la démarche ?
Je soutiens la démarche absolument, parce que la crise haïtienne aujourd'hui est totale et qu'il ne suffit pas d'y avoir des acteurs politiques autour de cette table qui doit nous amener à une solution. Il faut aussi les acteurs de la société civile qui ont la fraîcheur, la crédibilité, la distance, le vécu pour nous aider à sortir Haïti de l'ornière, car Haïti aujourd'hui est un pays qui se meurt à petit feu, empêtré dans une crise interminable et multidimensionnelle.
Ces acteurs de la société civile, qui sont-ils et quelle est leur légitimité ? On parle beaucoup d'eux et finalement, à côté, on ne voit pas forcément de mouvement populaire en Haïti. On ne voit pas des gens dans la rue. Peut-être l'insécurité en est la raison. Mais cette société civile que l'on met tant en avant, quelle est sa légitimité aux yeux du peuple aussi pour résoudre la crise actuelle ?
Alors, c'est encore un problème en Haïti. C'est un pays polarisé aux institutions qui ont éclaté. C'est un État failli où la société est mal organisée. Et la société civile elle-même, à l'instar de la société politique, elle est fendue, elle a éclaté en mille morceaux. Et en quelque part, elle ne peut pas parler d'une seule voix. Donc, c'est encore un problème haïtien. C'est comme le politique. C'est une société balkanisée où il y a 200 partis politiques qui eux-mêmes aussi ne peuvent pas parler d'une voix. Donc, en quelque part, le problème haïtien est le manque de structuration de la société civile et des partis politiques. Si une crise pareille avait lieu en République dominicaine, aux États-Unis, en Argentine ou au Brésil, peut-être qu'elle serait résolue beaucoup plus vite, puisqu'au fond, ils ont des partis structurés, ils ont un pays structuré, ils ont des institutions qui marchent. En Haïti, c'est beaucoup plus difficile.
Comment on fait aujourd'hui ? Quelle est la solution, selon vous ? Votre mouvement En Avant plaide pour un renouvellement de la classe dirigeante. Oui, mais avec qui ? Et peut-être première question, est-ce que ça passe aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le Premier ministre intérimaire Ariel Henry, que certains appellent à la démission ?
Alors, le problème haïtien trouvera une solution lorsque, en bout de ligne, nous parviendrons à des élections libres, honnêtes et démocratiques. Le problème, c'est quand et comment. Quand il y a des acteurs de la société civile qui estiment que ça doit se faire dans 3 ans pour nous laisser le temps de faire les réformes structurelles qu'il faut. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut les faire tout de suite parce qu'il faut des élus légitimes pour porter ce grand fardeau. Nous, au niveau du mouvement En Avant, nous disons qu'il faut un équilibre entre les deux. Nous pensons qu'à la fin de l'année 2022, nous pouvons avoir des élections crédibles pour autant qu'avant. Nous ayons un nouveau gouvernement qui inspire confiance, avec des ministres sortis de la société civile, un gouvernement réduit, avec une feuille de route très très claire, un conseil électoral qui inspire confiance, qui va être l'arbitre impartial, et surtout, et c'est le sens de notre visite en Europe pour sensibiliser la communauté internationale, surtout, il faudrait qu'il y ait le rétablissement d'autorité de l'État et de la sécurité en Haïti. Et cela passe par des dispositions au niveau de la police nationale, qui doit être équipée, qui doit être plus armée, il faut mettre sur pied une cellule antiterroriste parce qu'Haïti a basculé de la criminalité normale, régulière, que l'on connaît dans tous les pays, à une situation de terrorisme intérieur.
Avec des chefs de gang qui appellent eux-mêmes le Premier ministre à démissionner. Quelle image? On se souvient par exemple la semaine dernière du ministre de l'Intérieur qui a été sur le terminal pétrolier de Vareux, là où sont concentrés 70% des stocks de pétrole en Haïti, terminal aux mains des gangs. Il a été chassé quasiment du site, obligé de partir sous les balles, des gangs. Ça en dit long sur l'image et la défaillance de cet État.
C'est l'image, c'est le symptôme plus que parfait de ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'un pays où l'État a failli et un pays où les autorités ne contrôlent plus rien. Un pays où, vous l'avez dit, il y a un terrorisme intérieur puisqu'il y a des milices armées, des gangs armés qui, en toute impunité, peuvent prétendre contrôler les terminaux pétroliers. Et c'est assez difficile de le dire, mais Haïti ressemble de plus en plus à un pays assiégé alors qu'il n'est pas en guerre. Parce que ces milices armées, elles s'en attaquent. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a une crise énergétique à nul autre pareil. Les pompes à essence sont à sec. Les hôpitaux, les génératrices ne fonctionnent pas, elles sont à sec. Aujourd'hui, une femme enceinte qui veut accoucher de césarienne, eh bien, elle risque de mourir tout simplement. Les tours des opérateurs de téléphonie cellulaire tombent les unes après les autres. Pas de communication, pas de route, pas d'activité. Haïti se meurt.
Avec un gouvernement qui assure, par exemple, au sujet des camions-citernes, que les livraisons peuvent se faire. On l'a encore vu lundi, 4 camions et chauffeurs qui ont été kidnappés. Kidnapping assorti de rançons. Jerry Tardieu, cet argent des rançons, où il va? Et je pose la question directement, tombe-t-il à un moment ou à un autre dans la poche de certains politiciens?
Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai toujours choisi de parler le langage de la vérité. La réponse est oui. Oui, parce qu'en Haïti, malheureusement, il y a une relation de type collusoire entre des autorités politiques, et pour ne pas le citer, l'ancien président Jovenel Moïse pendant 5 ans, et nous en a donné la plus parfaite et la plus patente expression, où les gangs étaient tolérés. Et ils ont été tolérés, donc les rançons, des enlèvements vont à financer des activités illégales avec des groupes illégalement armés qui imposent leurs lois. Mais c'est une relation de nature collusoire aussi avec certains hommes et partis politiques qui...
Qui sont aujourd'hui en fonction ou pas?
Certains sont en fonction, certains ne le sont pas. On va dire que ce sont surtout des hommes politiques qui ont des visées électorales et qui ne sont pas démocrates dans l'âme et qui veulent que ces gangs puissent servir leur désir de voler des élections. Et puis aussi, il faut le dire, il y a certains opérateurs du secteur privé, puisque extorqués par les gangs, donc ne pouvant pas fonctionner, sont obligés de rentrer dans le jeu sordide de devoir financer aussi les gangs. Donc quand on a cette collusion plus au niveau de l'État entre les puissants, et bien ça veut dire que le pays se barre. Et tout simplement aujourd'hui, ma présence ici, notamment en Europe, c'est de faire une tournée pour sensibiliser la communauté internationale, pour dire qu'il y a une crise multidimensionnelle grave, qui est certainement sécuritaire, qui est certainement politique et institutionnelle, mais elle est aussi humanitaire, car aujourd'hui les gens meurent tous les jours. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir. Haïti se meurt.
Le pays a-t-il les moyens, au-delà de cette volonté politique ou pas, de résoudre le problème de l'insécurité? A-t-il les moyens de prendre le problème à bras le corps, ou faut-il une aide étrangère? Les États-Unis l'ont proposé, plus ou moins. Est-ce qu'il faut une intervention ou pas pour résoudre ce souci?
Il ne faut surtout pas d'intervention dans le sens d'une occupation étrangère. Il faut très certainement une solidarité internationale, car il faut un plan de sécurité pour restaurer l'autorité de l'État, et celle-ci passe par l'entraînement, le financement de la police nationale, la mise en place d'une unité antiterroriste et aussi le recrutement de troupes. Et il faut certainement une compétence technique que nous n'avons pas encore. Maintenant, les choses peuvent-elles changer en Haïti? Oui, parce que nous sommes un grand pays, alors pas par la taille, mais par l'histoire, par le potentiel, par la qualité des Haïtiens qui y vivent. On est 11 millions et ceux qui vivent à l'étranger, on est 4 millions. Donc je pense qu'il faut un sursaut patriotique pour qu'il y ait, au niveau des forces politiques et celle de la société civile, un accord politique largement consensuel pour donner la légitimité à un gouvernement qui peut faire, je dirais, le travail de nous amener vers les élections dès que possible.
Il nous reste vraiment très très peu de temps, Jerry Tardieu. Vous êtes en Europe, vous l'avez dit, pour porter ce message. Quelle est l'oreille que l'on vous prête? Est-ce que vous êtes entendu?
Écoutez, à l'Assemblée nationale, où j'ai retrouvé d'anciens collègues, oui, je pense qu'au niveau des autorités françaises également, j'aurais souhaité qu'ils soient de plus en plus sensibilisés par des messages du type que celui que je porte ici en Europe. Et j'invite la communauté internationale à collaborer, à nous assister, à nous aider dans une situation extrêmement difficile, mais nous ne le dirons jamais assez. Il revient d'abord et précisément prioritairement aux Haïtiens de se prendre en main, car Haïti est un pays où nous avons la responsabilité de mener à bon port.
Géry Tardieu du mouvement haïtien en avant, ancien député. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans notre studio à Paris, donc pour évoquer cette situation en Haïti. Pas d'opposants, ils sont tous arrêtés, emprisonnés ou en exil. Les élections au Nicaragua dimanche seront illégitimes, dixit le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui est en ce moment en tournée en Amérique latine. Scrutin verrouillé par le couple présidentiel Ortega Murillo, qui vient d'annoncer aussi le déploiement de plus de 30 000 militaires et policiers pour protéger les opérations de vote. Tiziano Breda est chercheur à l'International Crisis Group. Il y voit, lui, surtout l'occasion de décourager toute manifestation.
Ces annonces correspondent à la peur du couple présidentiel lui-même face à toute résurgence possible d'un épisode de dissidence. Les deux dirigeants craignent de revivre cet esprit de protestation et de rejet de leur personne qui est pourtant majoritaire dans le pays selon les sondages, ce dont ils sont tout à fait conscients. Donc ce qui compte, c'est de tout faire pour assurer leur réélection. Ceci inclut l'arrestation des opposants, l'interdiction des partis politiques, l'accusation des médias qui veulent couvrir le processus électoral et puis le déploiement de l'armée et des policiers pour le maintien de l'ordre. Donc c'est la peur qui engendre ce type d'action et c'est en même temps la peur qui constitue la tactique d'éclatement de toute contestation utilisée par le pouvoir depuis plusieurs mois. Il s'agit aussi d'alimenter cette image d'un gouvernement fort et de semer la terreur parmi les opposants qui souhaitent exprimer leur contestation le jour des élections. Cette stratégie de la peur rend cette contestation bien plus difficile.
Des propos recueillis par Carlos Pizarro, élection dimanche, on en reparlera d'ici là dans notre rendez-vous.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
On est en Martinique où la médiation au sujet de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire doit en principe débuter aujourd'hui.
Oui, la direction du centre hospitalier de la Martinique a transmis hier soir à l'intersyndicale un calendrier de rencontres avec une première entrevue ce matin avec les médiateurs désignés par le gouvernement, mais rien ne dit pour l'instant que l'intersyndicale sera au rendez-vous. Pedro Monerville.
Une médiation pour apaiser, pour assainir les tensions entre les personnels soignants opposés à l'obligation de se faire vacciner, et la direction du CHU, les autorités sanitaires et les services de l'État. Si le gouvernement a annoncé sa tenue à partir de ce 3 novembre, il n'est pas dit qu'elle se fera et pour cause. À ce jour, à en croire les syndicats de santé, il n'y a aucune communication entre le gouvernement via les services de l'État et les membres de l'intersyndicale. Pourtant, le gouvernement l'a assuré. L'objectif de cette médiation est de rétablir un dialogue serein et constructif avec l'ensemble des acteurs locaux par le biais des médiateurs qui feront circuler la parole. Les acteurs sont là, on le voit, mais pas le cadre, et en croire l'intersyndicale de la santé, ni le lieu, ni l'heure, ni la durée, encore même les modalités de prise de parole et les thèmes de cette médiation ne sont pas clairement déterminés. Difficile donc en l'état d'imaginer une quelconque rencontre entre les parties via leurs médiateurs, si ces conditions d'organisation ne sont toujours pas définies.
Un tout autre sujet maintenant, le réchauffement climatique, un problème qui concerne évidemment aussi la Caraïbe, à travers notamment la prolifération des algues sargasses. Seulement voilà, les moyens ne sont toujours pas au rendez-vous, comme l'explique l'élu martiniquais Louis Boutrin. Il est au micro de Jean-Baptiste Anatole.
Il y a un ministre de la transition écologique, Monsieur Nicolas Hulot, le jour de sa démission, il m'a dit « On me demande de dire aux populations de Guadeloupe et de Martinique qu'on va lutter contre les sargasses et les enlever en 48 heures, mais on ne me donne pas les moyens. » Et il a justifié sa démission, entre autres, par cela. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions, surtout en ce moment, mais il faut qu'il y ait des moyens logistiques et financiers. Parce que logistique, pour enlever les sargasses, il faut d'abord faire des barrages en haute mer. La marine nationale du Mexique le fait, la marine nationale française ne le fait pas. Donc vous avez bien compris qu'il y a des enjeux qui nous dépassent et il appartient à l'État qui a la compétence dans ces eaux internationales de faire le nécessaire.
Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Ainsi se termine notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Vous le savez, vous pouvez nous réécouter sur RFI.fr, toutes les applications et les plateformes de podcast. Commentez l'actualité aussi en direct sur Twitter @RFI Amérique. Je vous dis à demain.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.